Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE, SmackDown Live. Je suis Yerem et je suis accompagné, comme toujours, de l'ami Giscal. Salut Giscal.
Salut Yerem, salut tout le monde.
Comment vas-tu ?
Ça va ma foi pas mal. Et toi ?
Bah écoute, ça va, voilà, fini de se faire secouer là par le superstar check-up. Maintenant, il faut revenir aux affaires courantes et au menu de cet épisode de WWE SmackDown Live du 24 avril 2018. Shinsuke Nakamura nous casse les couilles. Le Miz vient en paix. Big Cass vient en veste. Jimmy Uso demande à Naomi de rester à la maison parce que la vaisselle ne va pas se faire toute seule. Et Carmella signe son arrêt de mort. C'est le Miz qui est de retour à un SmackDown qui ouvre le show. C'est vrai que c'est un spécialiste hein, de la discipline. Alors autant miser sur les gens qui savent le faire, sur nos atouts. Et donc le Miz nous annonce qu'il a un match. Il nous rappelle qu'il a un match pour le titre intercontinental. Hein, on se souvient, c'est pas très clair hein, cette histoire. Mmh. C'est vendredi, hein, n'oubliez pas, vendredi, le plus grand Royal Rumble, du coup.
Si, c'est clair quand même. T'exagères.
J'exagère, mais voilà. T'exagères tout de suite.
T'exagères, attends.
En tout cas, ils se sont donné beaucoup de peine pour bien nous réexpliquer clairement ce qui va se passer. Et le Miz, il n'y a pas plus clair comme gars. Il nous explique donc qu'il aura un match, son rematch hein, finalement, pour le titre intercontinental.
C'est ça.
Le titre hein, qu'il a rendu prestigieux, hein, évidemment, mais on s'en
qu'il
fout.
A gagné, et qu'il a gagné 9 fois, d'ailleurs, il nous l'a rappelé, et je pense... Attends, c'était ça, 9 ou 7, je sais plus.
En fait, il a gagné 9 mois, et donc égalisé le record de Chris Jericho.
Mais en fait, il en a profité pour nous le rappeler, et ça m'a choqué quand il l'a dit, je me suis dit, putain, mais en fait, il l'a déjà gagné 9 fois, c'est incroyable, en fait.
Ouais. Il l'a gagné 9 fois, et il était sur le point de battre le record de durée de règne cumulé. Hein.
Ouais. Cumulé. C'est quand même assez
mais ça voilà, ce sera pour une prochaine fois. Et effectivement, du coup, si c'est son 9e titre, il a égalisé le record hein, de Chris Jericho. Donc voilà, il y a un petit quelque chose peut-être à faire hein, là-dessus pour un petit peu plus tard. Mais pour l'instant...
Je vérifiais, non, il est 8 fois champion, donc je pense qu'il a dû dire c'est pour le gagner pour la 9e fois. Je pense qu'il a dû dire ça, je pense.
Eh bien écoute, le record de Jericho reste intouché.
Peut-être,
on verra la réponse ce vendredi, mais on s'en fout, nous dit-il. C'est pas ça, c'est pas là l'histoire que vous voulez entendre, dit-il au public. Et le public est d'accord, on sait tous très bien ce pourquoi il est là, ce pourquoi il est revenu vraiment à SmackDown. Il commence à nous expliquer que depuis la naissance de sa fille, il a changé. Hein. Il a plus toute cette colère qu'il avait contre Daniel Bryan. On se souvient ce coup de nerf qu'il avait eu à Talking Smack. Et il nous parle justement de Talking Smack. Mais il s'adresse à Daniel Bryan et il lui dit que visiblement, lui, il a pas ressenti la même chose hein, suite à la naissance de sa fille, Daniel, qui lui, visiblement, il n'a pas changé. Que peut-être le lien qu'il a avec sa fille n'est pas aussi fort hein, que le lien qui unit le Miz à sa fille, hein, Monroe Sky. Et du coup, il dit, bah voilà, Daniel Bryan m'a fait venir, hein, donc je suis là. Et il est temps, donc il est là un peu en homme de paix, il est en homme assagi, il dit, il est temps de passer à autre chose. Daniel Bryan, si tu veux venir, viens. Si tu veux me frapper, viens me frapper. Je t'attends, mais voilà, il est là en homme de paix. Mais ce n'est pas Daniel Bryan qui arrive, non, c'est Big Cass, nouvelle musique, nouveau look. Big Cass est en costard sur mesure, hein. Du costard sur mesure. Oui. Même si on verra un peu, on a remarqué qu'il a un peu galéré avec ses manches qui se retroussaient, mais bon, il faut se retrousser les manches hein, quand on est de retour justement. Donc l'image était belle. Il s'invite au Miss TV, il s'impose.
Il rend service
et il nous explique qu'il ne supporte pas. Et là, on dit bravo Giscal, tu l'avais senti, tu l'avais flairé. Il n'a pas supporté que le retour de Daniel Bryan ait éclipsé le sien. Le Miz tente un peu de reprendre le contrôle de l'interview hein, parce que là, on sent que c'est plus vraiment lui le maître de cérémonie. Mais il se fait rabattre le claquet. Et Bika se reprend en expliquant que Daniel Bryan devrait être son valet finalement, il devrait bosser pour lui, que les rêves de Daniel Bryan sont irréalisables hein, pour un si petit homme ordinaire. Il se confie Bika se confie à nous, il nous raconte un peu à la manière d'une Nia Jax que quand il était jeune, il était comme Daniel Bryan, il était petit, moche, plein de boutons, mais que contrairement à DB, il a eu une grosse poussée de croissance.
Alors, effectivement, belle, ouais, une sacrée poussée de croissance.
Vache, ça doit faire mal, hein, parce que les os là, quand ça ouais. pousse, tu travailles le matin, t'avais pris 10 cm. Et maintenant, il fait 2m20, hein, ou voire 2m30 selon la WWE.
7 feet tall, en tout cas.
Faites le calcul chez vous, à la maison. Et donc, c'est parce qu'il est grand et qu'il est beau qu'il n'a pas eu besoin de catcher hein, dans les salles de bingo, d'écumer les shows indépendants ou d'aller au Japon. Enfin, ces trucs-là hein, qui servent à rien là. Pour ouais. les catcheurs de seconde zone parce que Bikas, il est beau et que Bikas, c'est l'argent, c'est le money, money, money. Et il va renvoyer Daniel Bryan au KGB, la chaîne micro, mesdames et messieurs, Bikas.
Voilà. Voilà Big Cass, le nouveau Big Cass.
Le nouveau Big Cass. Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau Big Cass en costume, sûr de lui, qui bat le clapet aux Miz et...
Ouais, bon, bah écoute, il est pas mal ce nouveau Big Cass. Bon, il réinvente pas le couteau, le fil à couper le beurre hein, non plus. Enfin, c'est du grand classique, on va dire, de gros heel menaçant, une sorte de, c'est un peu de Baron Corbin. Exacerbé un peu plus en mode corporate bling bling et tout là parce qu'il joue un petit peu la carte du mec qui essaye d'en imposer un peu
un
sur son look et tout
à remettre son petit bouton de costard ça il ouais, sort ouais, la grosse ouais. montre en argent
donc tu sens qu'il y a un côté plus orgueilleux peut-être encore plus sur l'image où Baron Corbin c'était peut-être plus sur la domination physique et le côté un peu bully de cours de récré là c'est vraiment ouais il essaye de s'élever un peu s'auto-élever au rang de superstar là c'est pas mal en fait cette promo elle a eu plutôt des bons retours c'est vrai qu'elle était pas mal cette promo moi je sais pas pendant tout son déroulé à chaque fois je trouvais qu'elle était super bien écrite je trouve qu'on lui a donné un super texte à Big Cass il avait énormément de très très bonnes punchlines le coup de Daniel Bryan qui devrait sortir mes poubelles et puis au lieu de sortir mes poubelles il balance du garbage là c'est le même mot mais au public ici de machin enfin il y avait pas mal de petits trucs qui étaient pas mal sur Daniel Bryan mais je sais pas il y avait un truc en fait dans sa cadence dans sa façon de réciter la promo où je trouve qu'à chaque fois peut-être qu'il se précipitait un peu ou il marquait pas assez mais en fait il laissait pas je trouve le public assez même moi devant ma télé assez m'embarquer dans tout ce qu'il racontait il allait très vite enfin genre c'est une promo qui au final j'ai eu l'impression qu'il l'avait un peu torché alors que il y avait énormément de trucs qui étaient très sympas où il aurait peut-être pu peser bon là je chipote un peu mais voilà je sais pas il y a un truc qui m'a dérangé dans sa façon dans sa diction peut-être que j'ai pas trouvé extraordinaire mais dans l'ensemble voilà on lui a filé un super texte il était très sûr de lui il incarnait plutôt bien ce personnage écoute s'il arrive à deliver comme on dit enfin en tout cas dans le ring après derrière dans un style de brawler bien et qui nous fait pas quelque chose de trop pâteau trop lent si on va dire s'il a pas les défauts en un contre un que pouvait avoir le baron malheureusement avec tout l'amour que je porte au baron qui est souvent plus à l'aise dans les matchs à stipu ou à plusieurs s'il arrive à nous donner une partition en solo qui est pas dégueu écoute il a une carte à jouer dans ce rôle de Monster Hill un peu Star System ultra dominant qui se prend pour un ouf là et puis c'était pas mal voilà c'était assez rigolo comme tu dis il a un peu damé le pion aux mises il était un petit peu dans la même veine avec le costume avec je me la pète avec je suis beau gosse avec j'ai tout pour moi et tout mais avec les trois têtes de plus ça faisait un petit peu genre écoute le mise viens pas m'emmerder tu vois genre donc ouais. je trouve que c'était assez marrant parce qu'il y a eu un moment, il y a eu la petite rébellion du Miz, genre oh, tu sais qui t'es, tu sais à qui tu parles, t'as rien fait ici, moi je suis machin, moi je suis machin, moi je suis machin. Il s'est levé, il lui prend trois têtes, le visuel est impressionnant, tu vois. Tu sens quand même que malgré tout, un géant à la WWE, ça impressionne. Enfin, tu vois, genre là, tu te dis, ouais, le mec, a priori, il est pas là pour enfiler des perles, quoi, il en impose. Donc, écoute, je trouvais ça pas mal. Je trouvais que c'était une belle petite impro du nouveau Big Cass, pas dégueu, un poil précipité. Maintenant, j'attends de voir la réponse de Daniel. Ouais,
bah Daniel il va pas la donner forcément tout de suite. Enfin, voilà, effectivement, il y a eu deux petites séquences backstage. La première, c'est qu'on a retrouvé Daniel Bryan. Il s'est pris une rouste, dans les backstage, dans les couloirs
Et oui.
de l'arena. Et un peu plus tard, encore dans l'émission, il sortira de l'infirmerie avec un bandage un peu roselayette, assez dégueulasse, hein, et 3 tonnes de glaçons. Visiblement, il a pris un sacré coup. Les médecins prennent juste des précautions, nous explique-t-il. Il veut nous rassurer, mais qu'il compte bien justement donner cette fameuse leçon à Big Cass. Donc on sous-entend quand même que c'est Big Cass. Je ne sais pas si on nous le dit vraiment clairement.
Si, 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 on nous le dit après, en effet.
D'accord. Bon, bah, c'est
Mais.
vraiment Big Cass qui lui a. D'ailleurs, moi, je serais attendu quand le Miz a fait son intro, qui était toujours aussi bien. Hein, et ça, on est toujours ravis de
Oui.
voir le Miz à la maison. Je m'attendais à ce que Big Cass débarque entraînant, tu sais, Daniel Bryan avec lui, en disant, tiens, le ton Daniel Bryan. Mais effectivement, il s'était déjà chargé
Ah oui, c'était déjà chargé de
de
lui
laisser
rectifier
pour mort.
le portrait. Mais d'ailleurs, du coup, j'en profite sur ce segment. Une autre chose, je trouve, qui était très très bien dans cette intro, c'est qu'en fait, le Miz, il a joué Palmarès, machin, mais vous êtes tous venus voir, c'est le Miz contre Daniel Bryan. Ça y est, c'est enfin le moment, Miz contre Daniel Bryan et tout, c'est ce que tout le monde attend. Et je trouve qu'en fait, ce segment a réussi à complètement remettre le projecteur sur le Miz contre Big Cass, le Miz, pardon, le Daniel Bryan contre Big Cass. Tu sors du Miz TV, tu étais rentré à Miz TV pour voir Miz Daniel Bryan, et tu ressors de là en te disant, ouais, la feud du moment, c'est Daniel Bryan contre Big Cass. Donc je trouve qu'ils ont pas trop, ils ont plutôt bien réussi à détourner l'attention et à remettre le focus sur cette feud de transition, parce que ça va être une feud de transition, hein, mais c'était plutôt bien fait, je trouve.
Ouais, c'est très bien parce que là où c'est agile, c'est que effectivement on avait une dynamique assez rare, hein, évidemment, entre deux heels qui se prennent la tête. Et qu'en fait, le fait que Big Cass finalement nous prive de ce face-à-face
C'était
Miz
bien, ouais, bien joué.
Daniel Bryan, c'est bien joué parce que ça contribue à la hit qu'on peut lui. Enfin, à sa hit, quoi, évidemment. Pas seulement auprès du public qui de toute façon détestera le méchant, mais aussi. On va dire les gens qui suivent depuis longtemps et qui ont envie de voir
Ouais,
justement le
ils attendent
Miz
que
face à Daniel
ça.
Bryan, donc raison de plus pour le détester. Et du coup, ça c'était bien vu. Effectivement, sur sa capacité à balancer la promo, bon, il faut savoir qu'il part de loin, hein, Big Cass, même si à l'époque où il était avec Enzo Amore, il a eu 2-3 fois le micro et
Non mais c'est pas mal, hein,
il
c'est
arrivait
pas
à
mal, oui.
délivrer, mais c'est vrai que voilà, il était souvent dans l'ombre. De Enzo Amore, là d'ailleurs il disait qu'il voulait pas être dans l'ombre de Daniel
Oui,
Bryan, un autre
ce qui est drôle
petit dans
comme
le même
image, parce
genre.
que du coup, l'ombre de Daniel Bryan est toute petite par rapport à la sienne, donc
Oui,
c'est
c'est ça,
assez drôle.
c'était
Ouais.
plutôt bien vu. Moi
C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de
effectivement,
bonnes punchlines.
il y avait du edge un peu dans tout ça, c'est très drôle.
C'est vrai,
Déjà
c'est pas faux.
physiquement il lui ressemble, mais aussi il y avait. Alors on n'y est pas encore, hein. Effectivement il y a encore du boulot. Mais ça, c'est un reproche qu'on peut faire à beaucoup, beaucoup de nouveaux dans le roster. Cette, pas incapacité, mais ouais, on va dire cette incapacité à l'heure actuelle, parce qu'il faut travailler de faire une promo avec le public, quoi. Et de mieux
Ouais,
jouer avec les temps morts, de
c'est
sentir
ça.
les réactions,
C'est plus ça qui m'a gêné, ouais, c'est ça. T'as
de peut-être
l'impression qu'il a
un
bien
peu
appris son
plus
texte.
mobile, un peu plus mobile dans le ring, même si là, bon, il a la classe tout, donc il est un personnage qui a pas besoin de faire le tour du ring en levant les bras, mais être un peu plus vivant, un peu plus interactif avec le public, là, ça a quand même bien marché, mais attention de ne pas se retrouver à faire des promos de 5 minutes avec un balai dans les fesses et à pas faire attention à ce qui se passe autour. Donc là, comme tu dis, il a eu la chance, mais bon, visiblement, on mise beaucoup sur Big Cass. Pour cette rivalité, tout du moins, d'avoir un très beau texte. Franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu
Ouais.
une belle promo comme ça, bien écrite, pour un petit jeune qui vient se
Il y avait
frotter
un vrai
à
effort, je trouve.
ouais,
Ouais.
qui vient se frotter un main eventer. Du coup, là-dessus, chapeau sur cette belle double intro, hein, finalement, qui a effectivement bien lancé la rivalité. Allez, direction la division féminine. Pareil, il y a eu du changement. On croise les doigts pour que ça se passe mieux. C'est l'iconique duo qui est là, ils sont déjà là, on n'a pas eu le droit à leur entrée. Elles nous font un peu le même numéro que la semaine dernière, elles nous expliquent. Alors, c'est très drôle, elles se regardent dans le retour vidéo sur le grand écran, sur le petit entron pour admirer
Parce qu'on
leurs
est
belles.
belle et tout.
Elles sont
Ouais.
belles, elles sont hot,
C'est vrai qu'elles sont
etc.
belles.
C'est vrai qu'elles
Oui.
sont belles, c'est vrai qu'elles sont hot. Je trouvais ça très drôle, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent souvent. Les caméramans
Ouais.
évitent d'avoir les doubles plans,
Ouais.
d'avoir le
Et
petit
là,
entron en
ils
même
ont joué
temps.
avec, là.
Là, ils ont
Ouais.
joué avec, où elles se regardent un peu. voilà, génération selfie, génération on s'admire, etc. Ça marche plutôt bien. Elles nous rappellent hein, qu'elles ont contribué à la fin du règne de Charlotte. Et en faisant leur petit calcul, tu sais, comme quand tu dis, ouais, si machin a battu un tel et qu'il a battu un
Oui.
tel, moi, vu que je l'ai battu, en fait, je suis meilleur que tous les autres. Et ben, c'est exactement
Les
ça. Elles estiment,
mathématiques par l'absurde, là.
voilà, exactement. Et pour elles, elles sont meilleures qu'Atsuka, puisqu'elles ont battu Charlotte qui a battu la japonaise. On va vérifier un peu tout ça, puisqu'on a un 2v2 qui les oppose à Becky Lynch et Asuka. Un match que j'ai trouvé plutôt équilibré et plutôt bien rythmé. Et à la fin, on corrige un petit peu la petite erreur qu'on avait pointée du doigt la semaine dernière. Cette fois-ci, les heels, en plus d'être deux, donc là, franchement, ça aurait été
Ah oui, bah
dommage
là, il
qu'ils
n'y
ne
avait pas
gagnent
le choix,
pas.
là.
Là, il n'y avait pas le choix. Une petite tricherie. On fait un roll-up, on cède des cordes pour le tomber victorieux sur Becky Lynch, hein, puisque c'est. Voilà, Becky Lynch n'a pas trop changé, c'est elle qui prend les tombées. Et du coup, ben, première victoire des Iconic Duo, ça c'est bien. Première défaite d'Atsuka dans.
Oui,
Ça
enfin,
c'est.
post-WrestleMania,
Post-WrestleMania. Oui, évidemment, post-WrestleMania, tu as tout à fait raison. Et c'est parti, on y est, ça. Non, maintenant, Atsuka peut perdre, alors on va pouvoir avoir des choses un peu plus. On va pouvoir un petit peu varier les résultats des matchs, quoi.
c'est ça l'info un peu. Ouais,
C'est la grosse info.
c'est que Asuka a perdu. Et alors, moi, j'étais pas fan. J'aurais préféré qu'on garde la streak d'Asuka, mais en tout cas, maintenant qu'elle n'est plus là, bah, c'est vrai qu'il faut se servir de faut se servir de ce poids qu'on nous a enlevé, on va dire, et en effet se servir de l'aura d'Asuka pour donner de belles victoires, même si c'est pas Asuka qui prend le tombé, bien évidemment. Elle a quand même, mine de rien, elle a quand même perdu. Donc, ce qui fait que maintenant, on peut la faire perdre et ça sert parce que c'est vrai que les deux petites jeunes, même si elles gagnent en trichant, même si elles ont fait le tomber sur la partenaire, elles ont quand même battu une équipe dans laquelle il y avait Asuka. Donc, c'est quand même une grosse victoire, tu vois, pour les nouvelles arrivantes. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, on a un petit peu rectifié le tir, en effet, en leur donnant une bonne petite victoire de tricheuse. Moi, en plus, j'ai bien aimé parce que contrairement aux deux matchs qu'on avait, enfin, au match qu'on avait pu avoir de Billie Kay, qui écoute, bon, après, voilà, c'est les Rhoda Agents qui avaient peut-être pas non plus mis en place un match palpitant pour Billie Kay contre Charlotte la semaine dernière. Là, à deux, j'ai trouvé qu'elles avaient bien tiré leur épingle du jeu, dans le sens où il y avait un match qui était vraiment fun. Tu vois, genre, elles avaient pas mal d'interactions. Elles ont pu un peu montrer ce qu'elles savaient faire dans le genre à toi, à moi, le jeu avec le public, les taunts, les triches. Elles sont assez drôles, enfin, assez drôles et agaçantes à la fois dans leur façon de catcher. Donc, du coup, elles l'ont bien montré. Ça, c'était plutôt cool. Donc, il n'y avait rien de fantastique dans ce match, mais il a coché toutes les cases, on va dire, de ce qu'il fallait faire pour leur donner un petit peu de momentum, un petit peu d'exposition, et c'était bien, ouais, j'ai bien aimé.
Ouais, et bah écoute, je te rejoins sur la qualité du match qui était effectivement bien divertissant et c'est important, hein, d'autant plus qu'on a des heals comme ça qu'on veut faire monter, de montrer à quel point ils peuvent être roublards et que il va falloir un
Oui.
peu se retrousser les manches comme Bicasse pour aller déloger un petit peu ces deux petites pestes. Et puis bah voilà, hein, la Atsuka qui perd, Becky qui se prend le tombé. Bon, voilà, on va voir un petit peu ce que ça va donner tout ça. Parce qu'effectivement, le top, le main event de la fille est trusté, des filles, pardon, est trusté par les babyface. La preuve, puisqu'on a une autre séquence qui les concerne avec la fameuse signature de contrat entre Carmella et Charlotte pour Backlash. Backlash est dans
Oui,
2 semaines, donc
c'est ça.
on va faire la petite signature de contrat. Alors, Carmella arrive dans le ring, elle interrompt René Young qui s'apprêtait à faire un petit peu l'animation, l'interview, l'animation de la signature de contrat. Au passage, je ne sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que c'était pas dommage de ne pas voir Paige dans ce rôle? Paige, la grande absente
Bah, c'est
de
pas
cette
faux, j'y ai pas
séquence.
pensé. Oui,
Et de
peut-être qu'elle
l'émission
n'est
en
pas
entier.
encore, peut-être qu'elle n'est pas encore assez bien installée dans mon subconscient en tant que GM de SmackDown pour que j'y pense automatiquement. Mais c'est vrai que c'est une bonne remarque. GM aurait, enfin, Paige aurait pu tout à fait gérer ça puisque ça la concerne de premier chef. Oui, c'est vrai. Au
Voilà.
premier chef, pardon.
Ouais, donc voilà, moi j'étais un petit peu déçu de
Pas
pas
faux.
avoir Paige, hein, au bout de 2 semaines, elle nous fait déjà du télétravail, de l'abandon de poste. Hein.
C'est vrai
Bon.
qu'on l'a pas vu. Ouais. Enfin, je crois pas, à moins que j'ai loupé une séquence, mais
Non,
je crois
non,
pas.
non, on ne l'a pas vu de la soirée. Par contre, Carmella, on l'a vu et
On l'a bien vu.
revu, puisque évidemment, elle nous a repassé une petite vidéo, un package vidéo de ses plus grands moments. Hein. un package judo qu'on avait déjà vu la semaine dernière. Du coup, c'était le même pour celui de la Carmella Breschen. Je ne sais plus, mais en tout cas, on y a eu droit à une fois, puis une seconde fois.
Deux petites secondes.
Ouais, mais ça n'a pas duré très très longtemps. En fait, elle le passait à chaque fois pour que le public, au bout d'un moment, réagisse positivement à cette célébration. Elle disait qu'elle allait le passer jusqu'à ce qu'on l'applaudisse. Et Charlotte en a eu marre. Et elle est intervenue. Elle a coupé court à cette célébration de Carmella. Et donc, on s'installe tranquillement pour faire la signature de contrat entre les deux catcheuses. Donc, Charlotte, hein. Charlotte va signer sous les provocations incessantes de Carmella, qui, elle, quand elle se lève, se fait claquer la tête sur la table de façon assez violente par Charlotte, genre en mode « Oups, pardon, ma main a glissé ». Donc Carmella qui se bouffe la table dans la tronche. Alors après, comme ça, elle est toute sonnée, elle récupère, elle s'assure que sa ceinture est là. Charlotte repart. Et on avait une belle image pendant cette signature, une belle rivalité comme ça, de deux styles différents, hein. C'est vraiment le clash des styles où d'un côté on a Charlotte, oui, la grande classe, hein, comme ça, droite.
Presque dédaigneuse, enfin hautaine, dédaigneuse.
À la limite. Du côté effectivement très hautain, mais bon, ça fait partie du caractère.
J'aime bien,
de Charlotte,
ça fait partie
voilà,
du personnage.
Elle est comme ça, qu'elle soit ill ou face, elle fait partie de la royauté du catch et
c'est la reine.
La reine, il faut qu'elle se tienne bien, contrairement à
cette arriviste
de Staten Island là, cette pouilleuse vulgaire qui est.
Ça fait un peu les tuches. C'est genre.
Et c'est ça.
D'un seul coup, elle a gagné le jackpot et puis elle a fait n'importe quoi.
Les tuches à Stamford, voilà, prochainement dans tous vos ciné-clubs. Écoute, qu'est-ce que tu as pensé de cette petite signature de contrat, même si Carmella n'a pas vraiment eu le temps d'apposer son paraphe sur le bout de papier.
Non, ce qui est d'ailleurs très drôle, parce que je ne sais pas si c'était une exclue network sur YouTube ou est-ce que c'est vraiment passé pendant l'émission, je ne crois pas. Mais après, justement, consistance, cohérence et tout, il y a René Young l'a rattrapé dans les couloirs du stade pour aller lui faire signer. Hey, Carmella, t'as oublié de signer le contrat et tout. On lui a fait signer le contrat après, c'était assez drôle. Moi, j'ai beaucoup aimé ce segment, alors que, encore une fois, ça, on réinvente pas la roue, mais en fait, on revient à des basiques, on revient à des trucs qui marchent bien, des trucs très très simples, à savoir que Carmella, sur ce segment, elle est énervante. Elle est agaçante. Tu as envie de la voir se prendre la tête dans la table. Elle incarne tout ce qu'elle devrait incarner, à savoir que qu'est-ce qu'elle fout là, elle a pas le comportement d'une championne, elle a pas l'allure d'une championne. C'est ça qui est marrant dans le décalage avec Charlotte qui elle arrive majestueuse avec sa robe et c'est ouh, et puis son theme song qui est beaucoup plus, enfin voilà, et à côté de ça t'as l'autre qui danse, qui moonwalk, qui agite sa ceinture en mode, tu sais, c'est un jouet, elle sait même pas ce qu'elle fout là, elle sait même pas ce qu'elle doit faire, quoi. Donc tu repenses presque même au cash-in d'il y a deux semaines où elle savait pas ce qu'elle devait faire, elle courait partout avec sa ceinture, on lui a demandé de revenir trois fois pour pas mettre. Donc en fait je trouve que le décalage est assez drôle. Et elle joue bien là-dessus, la Carmella. Là, sur cette semaine, elle joue bien là, le coup du. Elle passe son paquet de vidéos ultra pompeux et puis elle dit, remettez-le jusqu'à ce que vous m'acclamiez et tout. Donc voilà. En fait, moi, j'ai trouvé que ce segment était très bien parce qu'il pose bien les personnages, il pose bien un décalage qui est plutôt assez efficace. Et donc voilà, là, on a quelque chose où, on a une championne illégitime un petit peu dans la tête des gens. Et je trouve assez intéressant de forcer le trait du dédain du côté de Charlotte, dans genre parce que ça donne aussi une porte de sortie. Enfin, ça donne un peu une incertitude sur le résultat parce que clairement elle a un excès d'orgueil là. Charlotte, elle est trop, elle a l'air trop sûre d'elle. Enfin, elle la dénigre complètement. C'est genre, c'est même pas mon problème. Elle la regarde pas de tout le segment. Elle arrive, elle signe son contrat, lui colle la tête sur la table, elle repart. Donc je trouve qu'il y a un truc qui est aussi intéressant, parce que si elle la prenait un peu trop au sérieux, ce serait pas crédible. S'il y avait des interactions un peu trop 50-50, ce serait pas non plus... parce que tu te dis, bon, Charlotte, elle va gagner. Là, je trouve que c'est pas mal de la jouer comme ça, parce que finalement, tu te dis, ouais, est-ce qu'elle va pas se faire piéger. Donc ça m'a plu. Ça m'a plu, parce que je trouve que c'est très, très facile, très bien écrit, très efficace. Donc j'ai bien aimé, ouais.
Écoute, je me joins à tes louanges sans aucune mesure. C'était vraiment une super séquence et il joue bien la carte avec Carmella. Pour l'instant, c'est un sans faute. Et Charlotte est toujours aussi belle et toujours aussi impressionnante. Mesdames, chapeau bas. Allez, on va retour à la division tag team. Hein. On sait bien que la fameuse division tag team de SmackDown, il y a du lourd, il y a du monde. On va le voir. On va voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde dans la division tag team. Et ça commence avec une petite séquence backstage où Jimmy Uso demande à Naomi de pas trop le chaperonner, quoi, pas trop le babysitter. Parce qu'on se souvient que la semaine dernière, Naomi est intervenue
C'est
alors
ça.
que Jimmy s'apprêtait à mourir sous le coup de massue des frères Marteau. Alors voilà, on se prend un petit peu la tête entre ouais, tu devrais pas trop intervenir, et puis Naomi qui fait ouais, mais bon, je voudrais pas non plus que tu te fasses tuer. Elle dit ok, on fait ça, c'est notre métier, hein, c'est un peu les risques du métier. Mais bon, là Naomi nous explique qu'elle a vu quelque chose. Elle a vu quelque chose, je sais pas si toi tu l'as vu, mais elle a
Non, j'ai
regardé
pas vu,
dans les
mais.
yeux de Rowan et Harper et elle n'a rien vu. Donc c'est assez bizarre comme réplique, mais elle a dit qu'elle n'avait rien vu,
Ouais,
donc le vide quoi. Donc
c'est ça qui est inquiétant en fait.
aucune émotion. Voilà, aucune empathie. Donc, ils auraient pu très bien le tuer comme ça et puis passer à autre chose. Du coup, voilà, on essaye de se rabibocher. Tu promets de pas intervenir ce soir, de me laisser un peu gérer mon petit business parce que je suis quand même catcheur, donc laisse-moi un petit peu catcher. Tu me fais confiance. Alors là, ils font un putain de check là. C'était
Ah
bien.
ouais, ils ont un sacré check
Un sacré
là.
check avec un petit bisou sur la fin entre les pouces qui se font un petit bisou. Là, c'était vraiment très mignon. Ah oh, oui, hein, ils sont ensemble, hein, by the way.
Oui, il faut quand même le savoir. C'est important pour le contexte, quand même.
C'est important pour le contexte. Et du coup, on a un match qui est un 1v1 justement entre Jimmy et Rowan. Bon, voilà, le match se déroule. Et alors que, visiblement, en tout cas, vu des backstage, Jimmy était en train de perdre le match, la musique de Naomi retentit. Elle prend son temps sous le petit entrant, elle fait son entrée là,
Ouais, elle fait toute son
dans
entrée,
le
ouais.
noir, fluo noir. Et du coup, elle continue, elle intervient, et en fait, elle reste sur la rampe, et elle vient distraire, un peu à la mode cartoon, quoi, elle vient un peu distraire les Rowan et Harper en se dandinant comme ça,
Ouais, en faisant un twerk là un peu
un petit,
là.
voilà, on va twerker sous le nez des frères Marteau. Et ça marche, ça prend, puisque Rowan se fait surprendre, et que Jimmy accroche la victoire. Accroche la victoire, et du coup, finalement, tout le monde repart bien content. Et Naomi a eu bien raison de pas rentrer faire la vaisselle. Alors, est-ce que quand tu mets ça en face à face avec ce qui va se passer vendredi, à savoir où vendredi, quand les Ouzons vont avoir leur match pour le titre, aucune femme ne va faire le
Oui.
déplacement, du coup sa femme ne sera pas là pour venir l'aider. Est-ce que
Oui,
tu
donc je vois pas
crois qu'il y
l'intérêt.
a une petite écriture par rapport à ça?
Genre, les
Ou
femmes sont indispensables.
les femmes sont indispensables? On sait
Il
que...
faut absolument qu'elles viennent dandiner du cul pour que leur mari gagne. Oui, je sais
Oui,
pas.
voilà, bon voilà, dans l'illustration du propos, effectivement, elle est peut-être pas la plus grande, mais en tout cas, effectivement, ce qu'on sait, c'est que vendredi, Naomi, qui a aidé son copain, son mari, à remporter le match, ne sera pas là.
Oui, c'est son mari en plus, je crois d'ailleurs.
Aïe, aïe,
Je crois qu'ils sont mariés. Ouais, je sais pas. Si, même, en fait, même si c'était pour ça, je vois pas trop l'intérêt. À part vraiment, vraiment écorner, je trouve l'aura des Usos, parce que ça me plaît pas moi. Enfin, moi personnellement, ça me plaît pas. Alors, je regarde pas Total Diva. Je suis pas sensible à la relation entre les deux. Ils ont beau être mari et femme, ok. J'aime pas parce que je trouve que les Usos n'ont pas besoin de ça, clairement. Donc en fait, oui, je vois pas trop ce que ça apporte. Si à mon avis, je pense même pas que la finalité ce soit de dire oui, bah à Jeddah, il y aura pas Naomi, donc du coup ils vont perdre à cause de ça parce que Naomi machin. Je pense même pas hein, parce que de toute façon ils le subissent plus qu'autre chose. Hein, le fait qu'elle soit pas là en Arabie Saoudite, Naomi, donc je pense que c'est du pur Total Diva booking. Donc oui, voilà. À part les faire passer un petit peu pour des faiblards qu'on a du mal à s'en sortir, parce qu'au final ils gagnent sur distraction et c'est tout. Ouais, je suis pas fan. Je vois pas l'intérêt. Les Usos c'était des badass qui parlaient de lockdown toutes les équipes, de leurs pénitenciers, des trucs et tout. Ouais, non, je j'ai pas été convaincu. C'était un peu le faux pas de l'épisode pour moi, ça.
D'accord, bon, on peut entrepercevoir donc ton flop d'ores et déjà, c'est magnifique. Ouais, moi, allez, moi, ça m'a légèrement fait sourire ce côté cartoon, quoi. Il vient dandiner, twerker sous le nez d'Harper et Rowan. D'ailleurs, Harper était genre, mais comment on a pu se faire avoir, quoi? Il hallucinait un petit peu. Mais c'est vrai que d'un point de vue storyline, c'est pas très très intéressant. Ça sent un peu le Total Diva, comme tu l'as dit. Bon, voilà, les Ouzo, va falloir un petit peu repasser à autre chose. On verra ce qui va se passer vendredi. Et d'ailleurs, vendredi, il y aura un autre match avec une équipe de SmackDown qui va essayer de remporter le titre de champion de Raw.
Ah oui.
C'est The Bar, puisqu'ils viennent embêter le New Day. Il y avait une petite séquence backstage où le New Day faisait du placement produit. Ils ont sorti un livre, c'est incroyable, bizarre. Je sais même pas ce que le quoi le
C'est fou,
bouquin
hein.
peut parler, le booty book là.
C'est une recette de pancakes, je sais pas.
Peut-être un livre de recettes. À mon avis, il doit y avoir un paquet de conneries là-dedans. Et du coup, à The Bar, ils viennent les embêter. Ils leur piquent le bouquin, ils leur piquent les pancakes. Ils expliquent qu'ils vont aller gagner le titre là vendredi. On nous explique encore un petit peu ce qui va se passer. Et puis, ils font le signe de The Bar. Et voilà. Donc, une petite rivalité hein, qui serait tout à fait naturelle, peut-être, entre The Bar et New Day qui se profile. Une petite séquence qui n'a pas fait de mal à personne.
Non, si ce n'est que The Bar a quand même précisé, en même temps tu te dis que c'est logique, que s'il gagnait les ceintures vendredi, bah du coup il retournait à Raw, donc ciao les gars.
Ouais,
Et genre,
effectivement. Ce serait culotté. Ce serait culotté, mais
ce serait
pourquoi pas?
assez culotté.
Pourquoi pas? Peut-être qu'ils se sont rendus compte du déséquilibre qu'ils avaient créé dans la division tag team et qu'ils se sont dit oh putain, les gars, revenez à la maison, on vous en donne un cinquième si vous revenez à la maison. Allez, on continue avec. On revient sur le côté solo. On avait un match. Randy Orton, Jeff. Ah non, je dis des bêtises justement. On n'avait pas ce
Ah oui,
match-là à la
non.
base.
Hey, c'est ça qui était.
C'est Jeff Hardy qui avait un match contre Shelton Benjamin. Et en fait, Jeff Hardy arrive sur la rampe. Et évidemment, Randy Orton lui fait le même coup qu'il lui a fait la semaine dernière. Il lui coupe dans son élan. En fait, la musique de Jeff Hardy s'éteint un peu trop tôt. Et Jeff, il se demande qu'est-ce qui se passe. Ma
Et
musique
là,
s'arrête
boum.
plutôt que d'habitude. Et la musique de Randy Orton intervient. Il lui passe sous le nez. Il lui pique son match. Donc, comme l'avait fait le frangin Hardy la semaine dernière, qui lui avait du coup permis de faire son match contre le même Shelton Benjamin. Donc, tout le monde se bat pour affronter Shelton
Shelton
Benjamin.
Benjamin, c'est ça.
Du coup, bah, on a pareil, un match assez serré de stars qui se connaissaient dans leur période de formation, hein, de la OVW. On nous le rappelle, hein, qu'ils étaient des stars à l'époque, hein, les deux. Ils se connaissent bien finalement, en tout cas ils se retrouvent. On a un beau match avec évidemment le RKO qui est teasé assez tôt. Shelton Benjamin qui fait forte impression. Mais le match est interrompu. Le match est interrompu alors que Jeff est. Aux commentaires, hein. Le match est interrompu par l'arrivée d'un petit bonhomme avec un masque
Oui.
de luchador qui attaque Jeff Hardy qui était en fait ringside hein, parce qu'il y avait une tentative d'Orton de balancer son adversaire sur la chaise des commentateurs. Du coup, Jeff Hardy s'est retrouvé comme ça à ringside. Et en fait, ce petit bonhomme masqué attaque Jeff Hardy donc à la jambe déjà blessée hein, de Jeff Hardy.
Mais oui.
Il la vendait déjà sur la rampe, même dans le couloir du stade. Je me suis dit, bah, l'impression qu'il s'était foulé la cheville en direct. Je me suis dit, merde, le con. Non, n'oublions pas, il est blessé. Jeff Hardy est blessé. Du coup, patatrac. Et ce petit bonhomme, Orton lui retire son masque et il se révèle que ce petit bonhomme n'était autre que Sunil Singh.
Eh oui.
Voilà, l'acolyte.
Et non pas Deadpool, enfin Wade Wilson là, c'est ça, comme a dit Corey Graves quand il est arrivé là, parce que c'était assez drôle.
Effectivement, oui, non pas.
Hey, Wade Wilson!
Ouais, c'est ça.
Il est con.
Effectivement, non, 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 c'est bien lui, donc l'acolyte hein, du Modern Day Maharaja, qui est venu un
Mais
petit
il nous
peu
manque.
préparer le boulot pour vendredi, justement. Il se fait RKO. Hein. Il se fait RKO
Oui.
pour la bonne mesure, et du coup, Shelton en profite pour placer son finish pour la victoire. Une belle petite victoire pour Shelton Benjamin. Ça fait plaisir, hein. C'est il là, qui remporte des petites victoires un petit peu
Importante, mais oui.
opportunistes ou vicieuses. Et en plus, j'ai trouvé ce match, cette séquence vraiment bien foutue. On a booké plein de choses en un match.
Et oui.
Encore un bon point là pour cet épisode de SmackDown. Qu'est-ce que tu en as pensé?
Bah encore une fois, en fait, je vais faire, c'est le commentaire que je vais avoir partout, mais il y avait rien d'extraordinaire, mais c'était ultra efficace. J'ai trouvé que c'était très très bien ce match et cette intervention. Tu l'as dit, ça fait plaisir de voir des heels gagner comme ça un petit peu, parce que c'est un petit peu comme les Iconics qui battent indirectement Asuka. C'est vrai que Shelton Benjamin, le faire affronter 2 semaines de suite, là c'est pas forcément le résultat, mais c'est plus la façon dont il est booké dans le match, parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, il est un peu 50-50 dans ce match avec Randy Orton, et c'est pas n'importe quoi. Randy Orton, c'est Randy Orton. La semaine dernière, il était un peu 50-50 contre Jeff Hardy, pareil. Jeff Hardy, c'est pas n'importe quoi, c'est une énorme figure de SmackDown et de la WWE. Donc du coup, en 2 semaines déjà, je trouve que l'aura de Shelton Benjamin est vachement remontée. Ne serait-ce que par la construction des matchs qu'on lui a proposé là en 2 semaines. Et puis, en plus, du coup, il gagne. Là, cette semaine, c'est encore mieux parce qu'il arrive à gagner en fourbe, donc c'est quand même pas dégueu, même si c'est sur distraction, peu importe. Il couche quand même Randy Orton, donc faut y aller. Donc ça, du point de vue de Shelton Benjamin, c'était cool. Et après, l'intervention de Sunil Singh, donc du coup, comme tu l'as dit, on book plein de trucs, parce que là, on vient booker le match à Jeddah, ça va être Jinder Mahal contre Jeff Hardy.
C'est ça.
Et à Backlash, par contre, ça va être Randy Orton contre Jeff Hardy.
Le gagnant de...
Randy Orton contre le gagnant. Donc en fait, il y a plein de chassés croisés là-dedans. Donc c'est assez marrant de voir un peu Jinder Mahal envoyer son émissaire comme ça à SmackDown, venir blesser. Donc ça, je trouve ça très drôle. Moi, ce que j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop drôle, c'est le visage, l'expression limite de dégoût de Randy Orton quand il retire le masque de Sunil Singh, et qu'il voit la tronche du Singh Brother là en dessous. Tu vois sa tête, genre... Mais tu sais, t'as presque l'impression qu'il se dit dans sa tête, mais je t'ai pas déjà tué 10 fois, toi, qu'est-ce que tu fous là et tout. Parce que c'est vrai qu'ils ont une longue histoire quand même, Randy Orton et les Singh Brothers, hein, parce qu'il les a, je pense, quasiment tués in kayfabe, je sais pas combien de fois. Donc c'est assez drôle, hein, il lui met un RKO, puis après tu le vois qui gueule dans son style caractéristique, là, stupid, stupid, comme ça, là. Et du coup, il se retourne, il se fait défoncer par le payder de Shelton Benjamin. Donc voilà, encore une fois, on est sur quelque chose de très efficace, qui développe bien plein de pistes, qui était divertissant. Donc j'ai bien aimé.
Allez, on s'approche du main event avec Samoa Joe qui nous fait une petite promo, un peu plus récap, un peu plus courte, hein, pour dire exactement la même chose que la semaine dernière. Grosso modo, il fait ses petits calculs et peut-être qu'il va nous ramener à SmackDown le titre SmackDown et le titre Universal. Oui. Ce serait pas mal, on le saluerait, mais bon, Samoa, faut pas trop rêver non plus.
Ah, écoute, tout est possible.
Tout est possible avec Samoa Joe. En tout cas, il était toujours aussi impressionnant au micro, même si là, c'était une petite séquence enregistrée. Mais Samoa Joe, c'est contrôle qualité en termes de promo et d'intensité. On a fait le tour de tout sauf du main event. Et avant que le match n'ait lieu, on a eu une petite séquence backstage. AJ Styles qui sort du bureau de Shane McMahon. Et il dévoile que ce soir, donc, il y aura le 3v3. Depuis que Nakamura s'est coquiné visiblement avec Rusev Day. Et à la question de René de savoir qui seront ses deux partenaires, la réponse est en deux mots. Tout de suite, donc, le club, les Good Brothers, vont rejoindre AJ Styles. Évidemment,
c'est pas mécontent de ça.
Voilà, ouais. On n'est pas mécontent, puisque il faut se l'avouer, je pense.
Je préfère
AJ Styles, ouais, fonctionne trio, beaucoup, ouais, mieux avec le Bullet Club. Enfin, le Bullet Club fonctionne mieux. Le club, les Good Brothers fonctionnent mieux avec AJ Styles qu'ils ne fonctionnaient avec Finn Balor. Ouais. Ce qui est assez marrant parce que finalement, Finn Balor et Karl Anderson se connaissent depuis beaucoup plus longtemps. Mais visiblement, il y a une alchimie beaucoup plus forte entre AJ Styles et les Good Brothers. Du coup, c'était la bonne opération. La preuve, oui. Dès ce soir, dans ce 3v3. Juste avant, on a Aidan English qui, lui, nous informe que Nakamura ne donnera aucune interview ce soir avant le match. Donc, on a le match 3v3 qui oppose donc, nos 6 belligérants. Et évidemment, donc ça tag dans tous les sens, hein, un match assez enlevé. Et à la fin, on a, alors que je ne dise pas de bêtises, Nakamura qui place son Kinshasa sur Karl Anderson, je crois que c'est ça, la
Oui.
fin du match.
Mais il sauve en fait AJ Styles après la disqualification.
C'est
Enfin, oui.
avant la fin du match qu'il le sauve. Je suis pas sûr. Si, si,
Non,
c'est
tu as
ça.
raison, c'est après. Non, non, tu as raison, tu as raison. Non, 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 il Kinshasa Luke Gallows, mais je pensais à l'angle après le match, pardon.
Ouais, c'est ça. Et donc, il y a un premier Kinshasa sur. Attends, sur Anderson? Ou Luke Gallows? Sur Luke Gallows. Sur Luke Gallows, c'est
Oui,
ça.
oui.
Sur Luke
C'est
Gallows.
le finish, ça.
Il y a eu
Ouais.
beaucoup de Kinshasa, c'est pour ça. Il y a eu une distribution de Kinshasa. C'était la Kinshasa partie. Donc, le finish, c'est Nakamura qui place le Kinshasa sur le grand gaillard, hein, qui est Luke Gallows, qui a fait claquer. Hein, là, on a eu ça
Oui,
fait.
il n'y a pas de doute, hein.
D'ailleurs, Anderson et Gallows, ils ont assuré. Hein. Ils ont assuré dans ce match-là. On les a beaucoup vus. Il fallait montrer qu'ils étaient forts, que c'était deux solides gaillards là, qui s'acoquinaient avec AJ Styles. Mais voilà, c'est pas fini, c'est pas fini, puisque juste après, Nakamura s'apprête à. Tu me dis si je me trompe. Hein, s'apprête
Oui.
à placer un Kinshasa sur AJ Styles.
Après lui avoir encore
Après lui
déglingué
avoir. Ah,
les valseuses
j'en
quand même.
oublie les. Oui, mais ça, c'est les constantes en plus des épisodes, donc c'est
Oui, parce
important.
que voilà,
C'est
c'est
même
quand
le
même.
titre de notre épisode de ce matin. Donc, effectivement, petit coup de poing dans les parties intimes d'AJ Styles pour cette fois-ci. Ensuite, il s'apprête à lui placer son fameux Kinshasa. Sauf que Karl Anderson se jette sous les
Au
balles. Hein.
dernier moment, hein,
D'ailleurs,
superbe.
c'était bien vu. Hein. Il a take the bullet, il a pris la balle et quand.
Eh
Petit clin
oui.
d'œil au Bullet Club, évidemment, c'était plutôt bien vu de la part des commentateurs. J'imagine que c'était Corey Graves, évidemment, qui a dû sortir ça.
Sûrement.
Évidemment. Et du coup, il est couché. Et cette fois-ci, après, il va en remettre un à Anderson. Et cette fois-ci, AJ Styles veut finalement un petit peu sauver hein, celui qui l'a sauvé précédemment, mais il n'a pas le temps de réagir.
Et non,
Anderson s'en
il
prend.
ne peut que regarder,
Il ne
eh
peut
oui.
qu'assister impuissant. Voilà la mise à mort de son camarade qui s'était sacrifié pour lui. Nakamura place un second Kinshasa sur Anderson. C'est mal, c'est
Salaud.
mal, c'est mal, c'est pas bien. Et c'est là-dessus que ça se termine sur la célébration donc de Nakamura. Victoire des méchants. Voilà, une belle écriture là. Ça y est, on a enfin un vrai méchant qui va affronter
Ah ouais.
AJ Styles. Le Dream Match va peut-être vraiment avoir lieu un jour, on ne sait pas. Mais là, voilà, on a une belle histoire entre les cordes.
Ouais.
Est-ce que tu es d'accord avec moi?
Ah oh bah ouais, enfin là c'est difficile. Enfin là c'est ce qui se fait de mieux là en ce moment je trouve tout chaud confondu en termes de personnages là. C'est top. Alors autant j'étais pas, je le suis, enfin je le serais pas du coup c'est passé. J'étais pas fan du turn à WrestleMania de Nakamura. Mais alors par contre ce qu'ils en ont fait derrière en 3 semaines là, c'est vrai qu'il est passé du statut de alors. J'attends de voir un match, hein, toujours, hein, parce que lui, c'est toujours son problème, c'est qu'au final, après, on a un peu du mal dans le ring. Mais il est passé du statut de, enfin, vraiment de fantôme de la top card là, depuis son arrivée dans le main roster, à le personnage le plus détesté du main roster là, justement. Je pensais pas qu'un truc aussi bas du front, que des coups dans les couilles toutes les semaines, en veux-tu, en voilà, ultra exagéré en plus. Hein, c'est des loblos, mais. C'est des loblots du théâtraux, quoi. Enfin,
Ça, c'est
vraiment,
parce
c'est.
qu'on n'a pas l'habitude.
Wow.
On n'a pas l'habitude de se prendre des coups dans les
Et
couilles toutes les semaines.
il reste bien à chaque fois, là, comme ça, avec son protège-dents et tout,
Ah bah
là. C'est assez drôle.
du coup, les photographes s'en donnent à cœur joie. C'est pour ça
Ah,
qu'on
bah,
a des belles vignettes pour le podcast.
il s'en donne à cœur joie, donc c'est très drôle. Donc, non, il est difficile de contester le fait que ça fonctionne. Enfin, même moi, là, maintenant, je me dis, mais enfin, il m'insupporte, quoi. C'est un connard, j'ai envie que ça cesse, quoi, qu'il arrête de chaque semaine de réussir son coup. On se dit, c'est pas possible. Il a toujours le dernier mot, donc j'ai envie de le voir se faire défoncer. Mais alors, par contre, le point d'orgue, enfin, le top du top, c'est son changement d'entrée. Ça, c'est fantastique. Alors
Effectivement,
là.
parle-nous-en parce que je ne l'ai pas cité, mais effectivement, ils ont un
Ah
petit
oui,
peu
là c'est
customisé l'entrée.
on touche là on est en train de alors ils misent beaucoup là sur ce turn manifestement parce qu'ils mettent tous les moyens pour mais c'est génial parce que donc ça fait 2 semaines là qu'il nous fait chier avec son no speak English allez tous vous faire foutre et tout machin et donc là maintenant ils ont poussé le vice jusqu'à donc sa nouvelle entrée c'est finalement la même chose mais pour arrêter donc en plus les commentateurs l'ont dit, hein, c'est à la demande expresse de Nakamura, ce qui est une touche importante quand même, c'est que pour arrêter que le public chante son theme song avec lui, parce que fuck le public, allez, hein. Et bah du coup, il a mis du rap en japonais par-dessus pour justement
Ouais.
empêcher le public de pouvoir chanter son theme song. Donc
C'est
c'est
un coup
génial.
de maître. Et en fait,
Ouais.
ça crée une, ça, je me suis, au moment de l'entrée, il y avait une cacophonie. Une cacophonie entre justement centré. Parce que je sais pas si c'est le mixage de la chanson, parce que je l'ai pas réécouté, mais je crois que quelqu'un a balancé la vidéo sur Twitter, ou c'était dans le chat. Bon, on la retrouve facilement à cette nouvelle entrée. Je sais pas si le mixage, donc entre la musique, donc la symphonie de Nakamura et la partie rappée qui était un petit peu mixée par-dessus. Et pas aux petits oignons, toi, ou si c'est juste l'ambiance avec les commentateurs
Non, je pense que
par-dessus
c'était plus l'ambiance générale. Faudra,
qui crée
mais
vraiment une cacophonie, et effectivement, tu pouvais pas profiter.
impossible de vraiment profiter du morceau de violon qui passe derrière
Ouais.
et qui était le truc qui faisait que en fait il faut pas se leurrer. On peut reprendre les arguments de Dolph Ziggler. Le truc qui faisait que Nakamura était over à la WWE depuis son arrivée, c'était son entrée. Enfin, il n'y a pas trop à chier parce que son personnage était fade, ses matchs étaient inintéressants. Et pour le grand public, hein, je parle, parce qu'il y a toujours des fanatiques qui, de toute façon, étaient fans de Nakamura, quoi qu'il arrive. Mais pour le grand public, il était over juste pour son entrée, c'est tout. Et en fait, là, on a tout enlevé. Il a plus rien pour se faire apprécier des gens. Donc c'est juste parfait. C'est juste un connard qui vient pour mettre des coups dans les couilles du mec, par contre, qui est le plus over de la WWE, enfin pas de WWE, de SmackDown. Et on prive tout le monde de son entrée, donc c'est génial. Enfin, c'est vraiment, je m'y attendais pas à ça pour le coup, à ce qu'il fasse ça. Donc c'est extrêmement bien vu. Mais bon, voilà. Après, sans passer des plombes sur son theme song, le match, c'est surtout le finish après qui est très bon. Parce que le match, pour le coup, j'étais un peu déçu parce qu'avec tout le beau monde qu'il y avait dans le ring, j'ai pas trouvé que c'était exceptionnel. Enfin, par rapport à tous les autres matchs du show, je trouvais qu'il y
Non,
avait
moi,
peut-être un peu mieux.
seule chose que j'ai remarqué, c'est vraiment Gallows Anderson qui était un peu mis
Ouais.
en avant, et ça c'était connecté avec justement la fin où Anderson se sacrifie. Et du coup, tu montrais vraiment les deux acolytes qui étaient à fond derrière leur nouveau chef, leur nouveau leader.
Oui,
Mais à
voilà, c'est
part
ça
ça, dans le
surtout.
match,
Ouais.
effectivement,
Match, il
personne
s'est
n'a
pas
plus
passé
brillé que ça.
grand-chose. Bien vu d'associer, je trouve, Rousseff à Nakamura, parce que s'ils veulent le garder en heel, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était assez efficace. Il n'a pas été trop chanté. Du coup, il n'y a pas eu beaucoup de Rousseff Day, tu vois, il n'y a pas eu beaucoup de chants. Bon, toujours pendant l'entrée, hein, parce que Aiden English joue vachement là-dessus
Ouais.
maintenant. Mais il n'y a pas eu trop de chants, donc ça a un peu tenu sous contrôle, on va dire, la pop de Rousseff, ce qui est pas mal, parce que et ce qui prouve aussi à quel point le heel turn de Nakamura fonctionne, c'est qu'il arrive à neutraliser quasiment le temps d'un match, le temps de 10 minutes, toute la ferveur qu'il peut y avoir autour du Rusev Day. Donc c'est quand même intéressant à noter. Voilà, le match n'était pas dingue. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vrai, c'était le finish, quoi. L'angle derrière. Enfin, vraiment, c'est le connard ultime là. Il met le coup dans les couilles, puis après il veut encore mettre son Kinshasa. Et c'est Luke Gallows qui se sacrifie. Luke Gallows, Karl Anderson qui
Anderson.
se sacrifie.
Non, Luke Gallows, parce que Luke Gallows s'est fait
Luke Gallows, il est
étaler.
déjà couché.
Et
Il est déjà
d'ailleurs,
couché.
il s'est fait. Je me suis dit, tiens, ça va faire plaisir à Giscal. Il s'est fait coucher. Et je pense que ça aussi, ça contribue au heel turn. Il s'est fait coucher sur un Kinshasa dans la nuque. Et on se souvient que les Kinshasa dans la nuque que portait Nakamura, où t'avais le mec qui s'en relevait. Tu te souviens, les
Oui,
adversaires se
ça me
relevaient.
fait plaisir, ça, parce que
C'était
c'est quand même
genre, t'es là, mais
dévastateur,
attends,
quoi.
c'est pas possible. C'est encore plus violent, c'est le Kinshasa plus plus quoi.
Ouais.
Et là,
Et
c'est
moi, j'espère.
exactement
Ouais,
cette prise là.
ouais.
Je ne sais pas si c'était fait exprès ou quoi. Moi, je pense
Je
que,
sais pas.
il faut dire
J'espère, en
ça,
fait.
que
Ouais.
ce Kinshasa, que
J'espère
dorénavant, il le porte
que.
dans la nuque, toi.
Voilà, exactement. Maintenant qu'il est heel, maintenant qu'il est vicieux, maintenant que, manifestement, il n'en a plus rien à foutre de rien. Parce que lui, c'est genre, il arrive et tout ce qui l'intéresse, c'est de pourrir tout ce qui passe devant lui, quoi. Je me dis, le Kinshasa dans la nuque est même encore plus adapté. Maintenant pour lui, j'espère qu'il le sortira plus, en effet, et que ce sera un vrai finish. Voilà, bref, voilà, que ce sera un vrai finish. Donc ça c'est top. Et puis après, le fait qu'il en remette un deuxième, enfin voilà, c'est Nakamura est un connard, tout le monde le déteste, ça marche très très bien. Donc bravo. Et puis c'est vrai que ça, je trouve qu'il y a un décalage qui est vraiment intéressant, avec le recul maintenant, de se dire que. Parce que finalement, tu as un côté assez, assez, noble dans le catch japonais, tu sais, côté un peu respectueux, c'est le combat, c'est l'effort avant tout, c'est l'honneur, et qui était plutôt bien incarné, que ce soit dans la promo de Asuka à WrestleMania, et même dans son comportement de manière générale, et depuis qu'elle est à SmackDown, voilà, c'est la combattante avant tout. Et le fait d'avoir vraiment je trouve que ça renforce encore plus même le personnage de Nakamura, d'avoir ce parallèle dans le même show, qui fait que du coup tu t'attends, en fait c'est vraiment une pourriture même pour les Japonais, il est aux antipodes de, enfin, il peut vraiment être, il peut pas être apprécié de personne, enfin, il est forcément détesté de tout le monde parce que il n'incarne même pas le côté culturel du catch japonais, enfin, c'est la raclure, c'est vraiment la pure raclure, donc c'est impressionnant d'efficacité, je trouve, parce que je ne m'y attendais pas à ce que ce soit si bon.
Ouais, bon, écoute, je crois qu'on a là du coup notre top heel de SmackDown,
Ouais, non, mais c'est
peut-être même le top
bluffant.
heel de la fédération, à défaut
J'attends de
d'avoir.
le voir confirmé dans un match,
Ouais.
mais je. Ouais.
Ouais, bah dans le match, il va falloir effectivement dérouler tout ça, nous montrer que ça y est, c'est bon, on a enfin un Nakamura au top. Et pour ça, il a fallu casser les couilles de AJ Styles. Et moi, je dis pourquoi pas. Pourquoi pas s'il fallait en arriver là. Allez, c'est l'heure du mot de la fin, si tu veux bien. Jusqu'à là, est-ce que tu veux bien justement nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît?
Bon bah mon top, et puis du coup j'en ai déjà largement parlé donc on va l'évacuer, mais alors pour moi c'est le changement d'entrée de Nakamura, je trouve que c'est la cerise sur le gâteau en fait, vraiment c'est le truc qui fait que maintenant il a passé une dimension supérieure où je me dis il est crédible, enfin genre ça peut potentiellement être le top heel de 2018, mais genre il peut être extra, et si son moveset, son catch suit dans les matchs, sur des petits bouts, là, ça a l'air d'être ça, mais il faut voir des 1 contre 1 en pay-per-view. Je me dis, ça peut vraiment être le top heel de SmackDown, donc c'est top. Et mon flop, bah, du coup, pareil, on en a parlé. C'est le seul faux pas du show pour moi. Les filles ont relevé le niveau, mais par contre, les tag teams, là, l'arrivée de Naomi, qui a l'air de s'installer là dans cette rivalité entre les Usos et les Bludgeon Brothers, me plaît pas parce que je trouve que ça gâche le bon travail qu'il y a pu avoir sur les Usos. Donc je mettrai mon flop sur l'intervention de Naomi. Et puis bah, note, écoute, je vais rester comme la semaine dernière et je suis assez content de revenir sur le vintage 4 sur 5
Ah, il fait
de
plaisir.
SmackDown. Et j'ai l'impression qu'on est bien parti pour une saison de 4 ou plus là parce qu'on est revenu là sur une très bonne dynamique. Où tout s'embrique bien. Ben voilà, j'ai retrouvé le flow des SmackDown d'il y a un an et demi,
Ouais, ça,
où chaque
2016. Hein.
ouais, ou un an et demi, où chaque semaine, à chaque fois, on avait la même conclusion, on se disait, ouais, ça se regarde bien. Enfin, je vois pas le temps passer. J'ai pas de trucs qui me gênent. Je trouve qu'il y a un bon flow. Toutes les histoires sont bien avec des personnages efficaces qui se développent bien. Ouais, 4 sur 5, c'est bien.
Super, bah écoute, je te rejoins également. Ce sera 4 sur 5 pour moi, ça fait plaisir de pouvoir distribuer ce bon vieux numéro, le numéro 4. En top, bah écoute, je vais le donner à Big Cass pour sa belle prestation. C'est pas
Il
facile
mérite un.
quand on est jeune, qu'on revient et qu'il faut tenir tête aux Miz et balancer une rivalité contre Daniel Bryan. Il était bien, il présente bien, il est grand, il est beau, il est fort, il est
Il
bien
faut pas
habillé.
oublier qu'il n'a que 30 ans quand même. Hein. Ouais.
Et il n'a que 30 ans.
Non, mais c'est vrai, il est jeune hein, quand
Ouais,
même.
bien sûr qu'il est jeune, mais ça se voit, non, qu'il
Dans
est
la
jeune.
catch-sphère. Oui.
Ouais. Et mon flop, eh ben, où est Paige? Où est Paige? J'aurais aimé voir Paige, là.
Ah,
J'aimerais
c'est
quand même la
vrai.
voir, Paige,
Maintenant
quoi.
que tu me le dis, c'est vrai que je suis pas content de ça. C'est pas normal qu'elle soit pas là. Elle devrait être là à plein temps, elle,
Elle
pour le
devrait
coup.
être là à plein temps. Exactement. Catch Up, c'est évidemment votre podcast qui résume et analyse tous les shows de catch de la WWE et parfois plus. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube pour la version vidéo et le live. On salue tous nos auditeurs là, qui étaient en direct sur le chat pour ce rendez-vous de la pause midi. Vous pouvez également nous retrouver pour la version audio sur iTunes ou Podcloud. Comme ça, vous pouvez nous écouter quand vous voulez, où vous voulez. En une fois, en deux fois, en trois fois, vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez faire avance rapide, mais vous pouvez aussi revenir en arrière et ainsi de suite. Vous faites comme vous voulez, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez le pouvoir. Twitter, Facebook, Instagram, c'est Catch Up, CDC évidemment. Bon, bah écoute, le prochain programme, il est un peu étrange, c'est le Greatest Royal Rumble.
Et
C'est ce
oui,
vendredi,
que va-t-il se
c'est
passer?
très tôt, c'est je crois à 18h en France.
C'est à 18h en France, c'est ça. C'est à midi côté Est, donc c'est à 18h en France, c'est ça. 18h, donc vous pouvez vous faire un WWE pay-per-view en live vendredi soir. Si vous n'avez rien d'autre à faire, vous avez un beau pay-per-view qui vous attend. C'est plutôt cool pour les Européens, pour une fois.
Bah, complètement, alors.
Et puis, écoute, moi, personnellement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais. Moi, leur teasing, ils ont réussi à m'avoir parce que je suis très impatient. Ils ont l'air d'avoir mis les moyens. Il y a quand même une carte qui est super impressionnante. Ça va être manifestement, ils font salle comble. Ils sont à guichet fermé dans un stade qui est costaud, hein. Enfin, c'est un gros, gros stade. À part WrestleMania, ils font pas mieux dans l'année.
Ouais. Ah, d'ailleurs, si vous êtes dans le coin, sachez que les places sont à $60 ringside, visiblement, d'après ce que j'ai vu
Ah ouais?
dans le passé. Ouais. Alors, information à vérifier, parce
Pour
que je viens
celles
juste
qui
de le
sont
voir
pas
passer là.
réservées pour les chèques ou les
Oui,
trucs et tout,
voilà,
ouais.
je pense que vous serez quand même trois rangs derrière le sultan,
Ouais.
mais bon, voilà.
Le sultan, le roi, c'est un royaume.
Ah, écoute, j'en sais rien, j'en sais rien. C'est un peu un plaisir coupable, ce pay-per-view.
Je suis
Mais
assez
bon.
impatient parce que je me dis qu'ils en font une telle promo. Alors, évidemment, il y a des enjeux commerciaux, mais ils en mettent
Ah,
des
c'est que
caisses.
ça. Ouais.
Ils en mettent des caisses et des caisses et des caisses que je me dis, moi, je pense qu'il va se passer des trucs.
Oui, on parle évidemment de changement de titre, on parle
Ouais.
voilà de bah, en faire venir les morts. Enfin, il y a quand même 50 bonhommes à mettre dans une bataille royale, dans un Royal Rumble. Du coup, bah 50 bonhommes, faut aller les chercher. Donc il y
Alors, il y
en
en a
a.
beaucoup qui disent que la bataille royale à 50, c'était enfin le prétexte pour rayer Alberto Del Rio des tablettes de ce foutu record qu'il a gagné le plus grand Royal Rumble de l'histoire. C'est terminé, ça.
Ah oui, parce que c'était à 41, c'est ça, dans un
Et à
SmackDown.
40, 40. Ouais.
40? Non,
Non,
non, ils avaient fait un
c'était pas.
41.
Ouais, mais c'était pas un Royal Rumble, c'était une bataille royale.
C'était une bataille royale, d'accord. Le
Ouais.
Royal Rumble
Parce
à
qu'ils avaient
40.
fait un Rumble il y a genre 4 ans maintenant,
Celui
peut-être, je
qu'il
sais
avait
plus.
gagné, d'accord.
Et il avait gagné, ouais, et c'était à 40.
Ouais, il avait sorti Santino Marella, je crois, en dernier, qui était resté coincé dehors.
Ouais.
Ouais, c'était une autre époque, hein, évidemment. Là, c'est 50, va falloir aller les chercher, donc. Et c'est sûr, ça va être grandiose.
Je pense que ça va être grandiose.
Voilà, si proche de WrestleMania, ça va faire bizarre. Mais là, effectivement, il faut pas bouder son plaisir, je pense. Il
Non,
faut
clairement
regarder.
pas.
En plus, on va pouvoir se le regarder en direct. Donc, écoute, hein, on y va, on y est. Et du coup, on analysera ça probablement dès le week-end. Écoute, en tout cas, on verra si ça aura des conséquences sur SmackDown la semaine prochaine. D'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end et une bonne semaine pleine de catch. Encore merci à toi, Giscal, pour ta fine analyse.
Merci, et comme toujours pour la présentation, IRM et pour ton analyse aussi.
Salut, salut!
Allez, ciao!